Journal de bord sonore de Sylvain Georges sur les ondes de Radio Grenouille du 28 avril au 1er mai à 9h et 23h30. Sylvain Georges est auteur et réalisateur. Il est en résidence à Marseille, invité par Alpha Béville avec le cinéma Gyptis de la Belle de Mai et Radio Grenouille.
Une autre époque, et à quelque autre occasion, un hiver, je rendis visite, à pied bien entendu, à mon frère qui séjournait alors dans une petite bourgade campagnarde, où il était chargé de décorer à fresque une salle de bal. Malgré la saison froide, j'avais choisi une tenue toute mince et légère. M'encombrer peureusement d'étoffes lourdes et épaisses m'eût paru une gêne désagréable, une peine superflue. La chemise et le chapeau pouvaient peut-être éveiller un tout petit doute insinuant. Ils avaient tous les deux quelque chose de mince, de miteux et de minable, et quant à la tête que je faisais, j'avouerai qu'en promenade, j'ai toujours l'air dégagé et insouciant. La route n'était pas particulièrement propre. Incontestable ou détestable, cette circonstance ne m'empêchait nullement de célébrer cette dernière, la route donc, et de considérer comme heureux le piéton qui la foulait de bon cœur, c'est-à-dire moi. Or, à mon vif regret, je fus moins du goût d'un gendarme perspicace, circonspect, qui tomba sur moi dans une localité, et malheureusement, c'est-à-dire à ma grande déconvenue, l'impression que je lui fis n'était pas aussi excellente que celle que je me faisais à moi-même. L'apparition incongrue d'un compagnon artisan parut le stupéfier. Elle l'obligea ou l'incita à m'arrêter et à me prier de bien vouloir le suivre. Il m'entraîna dans une sorte de pièce ou de quartier général parfaitement louable, où je fus présenté à son supérieur, qui était un être d'aspect plus rébarbatif qu'engageant, mais sans doute bien plus gentil que dangereux, et bien plus débonnaire que redoutable, comme un charmant voyou présumé. D'une voix sinistre, on m'enjoignit d'avoir l'obligeance de m'asseoir, puis on se mit à m'interroger sur ce qui pouvait me pousser à rôder à pied dans la campagne. « J'ai l'impression que vous ne me voyez pas sous un jour très favorable, » fis-je. Et l'on eut le front de me répondre, c'est le moins que l'on puisse dire. « Mais vous êtes très probablement dans l'erreur, osais-je objecter, si vous croyez avoir affaire à un vagabond ordinaire. Je prends la liberté de vous recommander de m'examiner d'un peu plus près. » Alors, vous concevrez peut-être l'impression très agréable pour nous deux que je pourrais être tout aussi bien, si ce n'est même plus facilement, un homme honnête et sincère qu'un effronté et un chenapan. Je suis convaincu que je ne correspond pas du tout à ce que vous vous sentez peut-être obligé de voir en moi. J'aurais pu prendre le train comme n'importe qui, mais du moment que j'aime beaucoup flâner et marcher des jours entiers et des kilomètres, j'ai préféré aller à pied, ce qui ne saurait ni passer pour un forfait, ni éveiller le moindre soupçon. Le goût de la marche et l'amour de la nature, qui lui est étroitement lié, serait-il peut-être suspect à vos yeux? Je vous prie de bien vouloir me l'expliquer. Vous nous paraissez bien assez suspect, monsieur, me fut-il signifié avec aplomb. Mais au bout d'une demi-heure remplie à craquer de vérifications laborieuses de toutes sortes de papiers et de documents, et de demandes approfondies de renseignements, on me laissa partir avec un « vous pouvez disposer ». La vie était fort bienvenue, charmant et courtois. Sans hésiter, je profitai de cette gracieuse autorisation pour décamper, et c'est donc ainsi que je pus poursuivre et mener à son terme une promenade certes risquée et difficile, mais néanmoins jolie, belle, salutaire et joyeuse, et j'arrivai à temps dans le petit bourg, et de fait, à l'heure dite, les frères réunis firent joyeusement honneur à la table du dîner.
It's raining on Wooster Street in Soho in New York on this November day. raining in the city. As I'm walking in the streets. Ah, a tree.
J'ai commencé à m'intéresser aux questions des politiques migratoires et notamment dans le contexte européen en m'intéressant à Frontex, donc on y reviendra je pense tout à l'heure. Et j'ai voulu aller sur le terrain et donc du coup j'ai eu l'opportunité de rencontrer des policiers de la police aux frontières en France, à la frontière entre la France et l'Italie. Et ce dont je me suis rendu compte en discutant un petit peu avec eux, c'est qu'en fait Frontex pour eux ça voulait absolument rien dire. Par contre il y avait quelque chose qui les avait beaucoup marqués, c'était Schengen. Et en fait, j'ai complètement réorienté ma recherche à partir de ce moment-là. Et j'ai commencé à m'interroger aux conséquences de Schengen sur le travail de la police aux frontières. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour cette police qui est spécialisée dans le contrôle migratoire aux frontières quand ces contrôles disparaissent. Schengen, c'est un accord qui a été signé en juin 1985 entre la France, l'Allemagne et le Benelux. Cet accord, il prévoyait à court terme la libre circulation pour les ressortissants communautaires et puis il évoquait déjà, dès le début, dès 1985, la libre circulation de manière générale pour l'ensemble des personnes qui vivaient sur le territoire européen et donc la fin des contrôles aux frontières internes, aux frontières communes entre différents États membres. Mais c'est seulement après la signature de la convention d'application de l'accord de Schengen qui a lieu en 90 et les négociations en vue de son entrée en vigueur, l'entrée en vigueur qui est arrivée seulement en mars 95 parce qu'il y avait plein de questions à régler. Notamment c'est à partir de ce moment-là qu'en fait la question de l'immigration au niveau européen a été récupérée par les ministères de l'Intérieur. Et donc, où on a commencé à lier les questions d'immigration et de criminalité à, argumenter qu'il fallait compenser cette libre circulation, qu'on ne pouvait pas seulement mettre en place une libre circulation, qu'il fallait compenser cette libre circulation par des mesures de renforcement de la coopération policière et judiciaire et du contrôle aux frontières extérieures, donc la définition d'une nouvelle frontière, la frontière européenne. Donc c'est entré en vigueur en mars 1995 et ensuite en fonction des États, les contrôles ont été levés à partir de ce moment-là. Entre la France et l'Italie, c'est seulement en 1997. Voilà, pour le contexte plus général politique. Pour parler de l'enquête que j'ai menée auprès des policiers qui travaillent à la frontière franco-italienne, donc à Menton et à Nice.
Menton, par lequel transitent un certain nombre de migrants, notamment lorsqu'ils vont à Calais, en destination ensuite de l'Angleterre, par exemple.
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, Menton est sur la trajectoire de ces migrants qui entrent en Europe soit par la Grèce, transitent par l'Italie, rejoignent la France et tentent de rejoindre ensuite l'Angleterre en passant par Calais ou alors entrent directement en Italie. Il y a vraiment, c'est la trajectoire classique de ces migrants. Et finalement, cette frontière ne constitue pas réellement un obstacle puisque... Malgré le fait que ces migrants soient en situation irrégulière, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas de papier sur eux, la police aux frontières se trouve dans une situation un petit peu paradoxale où elle ne peut pas de toute manière renvoyer ces personnes dans leur pays d'origine. Souvent, et donc du coup en fait elle se retrouve face à ces migrants en sachant pas trop quoi pouvoir faire.
Peut-être qu'on peut préciser pourquoi justement la police aux frontières ne peut pas renvoyer ces personnes dans les pays d'origine.
C'est ça, donc c'est des migrants qui sont originaires d'Afghanistan, d'Érythrée, et en tout cas, alors, à l'époque où j'ai fait mon enquête, en 2009, il était impossible de renvoyer des Afghans en Afghanistan. C'était pas faute de vouloir le faire, hein, de la part des autorités françaises, mais c'était déjà une question d'avoir un interlocuteur légitime en Afghanistan, et puis évidemment aussi pour des questions plus de droits fondamentaux. C'était un petit peu compliqué d'assumer de renvoyer ces Afghans dans leur pays. Donc en fait ce qui se passe c'est que malgré le fait qu'on ne puisse pas les renvoyer dans leur pays, la police aux frontières est quand même dans un processus de réaffirmation des limites nationales, des limites françaises, à une frontière qui est où il est censé pas avoir de contrôle. Donc, ces migrants sont arrêtés et remis aux autorités italiennes. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les policiers français remettent ces Afghans, ou ces migrants de manière générale, aux autorités italiennes, à la police aux frontières, la Polizia di Stato italienne, au même endroit qu'ils remettaient les migrants avant l'ouverture des frontières. C'est-à-dire qu'il y a une grande continuité des pratiques. En fait, finalement, il se passe à peu près la même chose. On arrête les personnes dans un périmètre, peut-être que je reviendrai sur cette question aussi, à côté, pas loin de la frontière, et on remet aux autorités italiennes ces migrants. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier centre de rétention en Italie est à Rome. Donc, évidemment que les autorités italiennes ne vont pas enfermer ces migrants. De toute manière, ils les enfermeraient, ils ne pourraient pas les renvoyer. Enfin, si les Français n'ont pas pu le faire, les Italiens ne pourraient pas non plus. Donc, les Italiens, de manière générale, prennent en charge ces migrants et puis, quelques kilomètres plus loin, ouvrent le camion et les laissent repartir. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que, finalement, cette frontière ne constitue pas un véritable obstacle pour ces migrants. C'est, au pire, une perte de temps, puisque, en fait, ils sont enfermés puis relâchés. Et ils passent à pied ou en prenant les TER, les trains qui transitent entre la France et l'Italie. Alors, effectivement, j'ai pu observer, en tout cas on m'a rapporté quand j'ai fait mon enquête, que des cas où la police aux frontières est en mal de statistiques et va quand même conduire ces migrants en centre de rétention. Mais ça, c'est relativement rare, c'est vraiment quand ils sont en manque de petits bâtons à mettre dans leurs statistiques. Ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, la manière dont on gère ces flux de migration, en fait, elle est vraiment liée, il faut le comprendre, dans un contexte non seulement national, mais aussi européen. C'est-à-dire qu'en fait, dans un contexte national où les policiers de Nice et de Menton savent pertinemment que ces personnes vont se rendre dans le Calaisis, et il y a un lien entre les services de police de Calais, de Paris et de Nice, et une pression qui est effectuée par les autorités policières parisiennes sur les services de Nice et de Menton pour que, justement, ce travail qui paraît un petit peu absurde, puisque finalement, ils savent très bien que ces personnes vont passer, de toute manière, pour légitimer ce travail. En fait, c'est une... Moi, mon hypothèse, c'est que c'est une manière de gérer ce flux, de ralentir le flux et de gérer les arrivées dans le quartier de la gare du Nord de Paris et puis dans le Calaisis. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en interrogeant les policiers, je me suis rendu compte qu'ils avaient vraiment une connaissance très très fine des pratiques de leurs collègues européens. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent très bien comment... par où ces migrants sont passés, quelle a été leur trajectoire, à quel moment ils ont eu besoin d'avoir recours à des passeurs, à quel moment ils n'en ont pas besoin, où est-ce qu'ils ont été enfermés par les autorités italiennes et grecques, combien de temps, quel type de séjour, quel type de documents leur sont délivrés à ce moment-là. Et il y a une connaissance aussi assez fine justement des pratiques de leurs collègues en termes de donc là on a une arrivée de migrants et on sait que c'est parce que dans tel centre de rétention ils ont dû les relâcher par groupe et donc du coup ils arrivent tous de cet endroit-là, etc. Sur la question des passeurs aussi, ils me disent le premier billet de train, on voit qu'il a été payé par carte bleue, donc c'est sûrement un passeur qu'il a acheté, mais par contre les passeurs ils prennent pas le risque d'arriver jusqu'ici parce qu'en fait ils sont sur des rails, il y a pas de risque et donc ils ont pas besoin de les accompagner pour effectuer le passage. Une des premières questions auxquelles j'ai été confrontée quand j'ai fait mon terrain, c'est que finalement je me suis rendu compte que la police aux frontières était toujours là. Normalement, il n'y a plus de contrôle, et pourtant, ces policiers sont toujours là. Alors effectivement, il y a beaucoup moins d'effectifs qu'ils n'en avaient, et puis il n'y a plus physiquement, les postes frontières ont disparu. Alors il faut savoir qu'à la frontière franco-espagnole, par exemple, ces postes frontières ont longtemps existé. J'ai plus la date en tête, mais je crois que c'est jusqu'à la fin des années 2000. Et en fait, c'est sous menace d'une sanction par la Commission qu'ils ont été obligés de démanteler ces structures. Mais ces structures existaient toujours jusqu'à la fin des années 2000. Dans le cas de la frontière franco-italienne, donc, je me suis interrogée sur, finalement, que font ces policiers à des frontières qu'ils ne sont plus censés garder. Et en fait, ils continuent de les garder, et les contrôles ont toujours lieu, c'est juste que ces contrôles sont moins visibles, plus ciblés. Ces contrôles ont pour objectif de gérer une tension, une contradiction entre ce principe de libre circulation européen qui est décidé par un centre politique européen et puis la volonté pour les États nationaux de conserver les frontières nationales comme un lieu de contrôle de la mobilité. Et finalement, la manière pour la PAF de gérer cette contradiction, c'est de faire un contrôle qui est de plus en plus ciblé. Et donc, j'ai essayé d'identifier la manière dont les policiers font ce ciblage. Alors, il y a une manière qui est une manière organisationnelle, disons. Ils ont les moyens légaux et organisationnels de le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, à partir donc signature de la convention d'application de l'accord de Schengen en 90, à partir de là, négociation intense entre les services de police, des services juridiques, des ministères de l'Intérieur en charge de ce dossier dans les États membres, et au niveau national aussi, certaines mesures qui sont adoptées, notamment donc en 93, la loi Pasqua qui est adoptée dans la loi Pasqua, une mesure est adoptée, la création de la zone Schengen. Cette zone, délimitée par une ligne à tracer à 20 km de la frontière, dans cette zone, en fait, les policiers peuvent effectuer des contrôles d'identité sans avoir à les justifier. C'est-à-dire qu'on ajoute une possibilité dans le code de procédure pénale qui régule et qui régit les conditions des accords des contrôles d'identité. Voilà, il y a une nouvelle condition qui est apportée, et c'est dans cette zone-là, finalement, les policiers n'ont pas à justifier les contrôles qu'ils mènent et les contrôles d'identité qu'ils mènent. Et donc, on est face à une situation où, effectivement, ces policiers ont pour objectif de laisser passer les ressortissants communautaires et ceux dont ils estiment qu'ils sont en situation, les ressortissants d'État tiers en situation irrégulière, et de cibler les immigrés et les migrants en situation irrégulière. Sur des critères qui sont des critères de visibilité, puisque les contrôles sont des contrôles routiers ou les contrôles sont des contrôles dans les trains. Et cette question du ciblage, du contrôle au faciès, pour le dire plus clairement, elle n'est pas vraiment cachée de la part des policiers. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne s'en cachent pas vraiment, ils le revendiquent même comme une compétence professionnelle. Certains policiers vraiment étaient dans un processus plus de s'en vanter. Ils disaient qu'ils étaient capables de distinguer un Kurde d'un Irakien et la manière dont ils en parlaient, c'est-à-dire la manière dont ils étaient perçus par la population. Ils me parlaient aussi de la manière dont ils géraient ça par rapport à la population. Par exemple, comment ils gèrent le fait qu'une personne dans le train va leur dire et moi pourquoi vous me contrôlez pas? Et donc ils disent on est obligé de contrôler tout le monde, même si on sait pertinemment, même si on a spoté la personne qu'on veut arrêter dès le début, dès qu'on rentre dans le wagon.
Rencontre avec Sarah Casella Colombo, chercheuse en post-doctorat à l'Université d'Aix-en-Provence et membre du réseau Migreurope.
Vous venez d'entendre le journal de bord sonore de Sylvain Georges, auteur et réalisateur, en résidence à Marseille, invité par Alpha Béville, et en partenariat avec le cinéma Gyptis, Belle de Mai et Radio Grenouille. Un journal de bord à retrouver sur les ondes de Radio Grenouille du 28 avril au 1er mai à 9h et 23h30, et à réécouter en podcast sur le site de Radio Grenouille www.radiogrenouille.com.